Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat aujourd'hui avec le magazine Version Fémina. Catherine Roig, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directrice de la rédaction. On vous retrouvera en fin d'émission à 12h25 pour la cerise sur le gâteau. Quelle cerise aujourd'hui ?
Ah, mon sujet aujourd'hui, c'est la plus vieille recette de l'humanité.
Rien que ça,
eh bien. Voilà, rien que ça.
À tout à l'heure, 12h25. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Et vous nous proposez la Madeleine II, le souvenir gustatif d'une personnalité aujourd'hui ?
Aujourd'hui, Philippe Catherine.
Alors, à tout à l'heure, aux alentours de 12h15. Notre plat du jour aujourd'hui est bien évidemment dédié à l'une des meilleures cuisines du monde, entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Je veux parler de la cuisine japonaise. Et pour en parler, deux invités, une auteure, poète et traductrice qui jongle avec les mots comme avec les mets. Bonjour Yoko Sekiguchi.
Bonjour.
Vous vivez entre les cultures japonaises et françaises. Vous avez traduit des recueils de textes japonais sur la gastronomie formidable Club des gourmets et autres cuisines japonaises chez POL. Vous avez écrit des livres comme Dîner Fantasma, Fade, et le dernier vient de paraître aux éditions POL. Il s'intitule Nagori. Nagori, c'est comme la sodade japonaise. Vous avez aussi écrit un guide, Le voyageur affamé du Japon à Paris, aux éditions Menu Fretin, qui recense toutes les adresses les plus appétissantes de cuisine nippone à Paname, dont le restaurant de notre deuxième invité, Taku Sekine. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue ici aux Bonnes Choses. Vous êtes aux manettes du restaurant parisien Dersou, primé meilleure table du guide Le Fooding 2016. Alors des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, parlons donc de cette meilleure cuisine du monde. En 2013, je disais qu'elle était entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est plus exactement le Washoku qui est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Qu'est-ce que le Washoku, Ryoko Sekiguchi ?
Alors, donc Washoku, bah, ça veut dire la cuisine japonaise, en fait, tout court. Mais en fait, je pense que lorsqu'elle a fait son entrée, en fait, dans le patrimoine culturel, je pense qu'il s'appuyait surtout sur le fait qu'il donne beaucoup d'importance sur les rituels, sur la cuisine, donc qui est liée à la vie quotidienne et traditionnelle des Japonais, donc qui perdure encore aujourd'hui.
Taku Sekine.
Pour moi, la cuisine japonaise, certains assaisonnements, évidemment, genre sauce miso ou certains ingrédients comme du riz ou du poisson. Sinon, certaines façons de cuisiner, cuit sur binchotan, cuit beaucoup à la vapeur ou moins de gras. Ces choses qui est un petit peu décalé par rapport au reste du monde. Je pense qu'on a commencé à apprécier ça.
Est-ce qu'on peut parler tout simplement d'une cuisine japonaise, ou sachant quand même, il faut le rappeler, que le Japon est un archipel de plus de 3000 îles, est-ce qu'il n'y a pas des cuisines japonaises en fonction des régions ?
Bah, exactement. Moi, je pense qu'en fait, la cuisine japonaise partage la notion de terroir avec la cuisine française. Et un des charmes de cette cuisine japonaise, si on peut appeler ça comme ça, c'est que chaque fois que qu'on bouge d'une région à l'autre, on découvre la cuisine propre à chaque climat, chaque région.
Vous venez d'où, Taku Sekine, par exemple ?
Je viens de Kanagawa, c'est juste à côté de Tokyo. Et même là, il y a déjà cuisine régionale. Après, sinon, je pense qu'au Japon, à Tokyo, à Osaka, il y a des cuisines déjà régionale, mais sinon cuisine un peu cosmopolitaine. Donc cuisine japonaise, ça commence à mélanger avec l'autre culture étrangère. Ça, c'est très intéressant aussi. Et en tout cas, c'est très très riche au niveau de culture alimentaire.
Est-ce qu'on peut dire quand même que ce qui rassemble tous ces terroirs, c'est la mer, Ryoko Sekiguchi ?
Oui et non, parce que à la fois, bon, bien sûr, il y a tous ces produits de la mer, mais il faut pas oublier que bon, les gens disent toujours qu'on ne mangeait pas de la viande, mais si quand même, on mangeait des gibiers venant des montagnes. Donc seulement, on ne faisait pas de pâturage et aussi les champignons. Donc voilà.
C'est très montagne en fait, Japon. Oui. En fait, on est quand même isolé comme une île, mais en fait, c'est l'histoire de volcans aussi, donc il y a plein de montagnes. On a moins de la terre très plate comme en France, et puis du coup, on trouve gibier comme elle a dit, on a plein de champignons, on a plein de même légumes et les herbes sauvages qu'on trouve beaucoup sur la montagne.
Alors, vous savez que si on est français, qu'on n'est jamais allé au Japon, on pense que la cuisine japonaise, c'est avant tout des sushis et des sashimi. Or, il y a une immense variété de plats. Qu'est-ce qu'on peut dire de certains plats typiques qu'on ne connaît pas encore en France ? Taku Sekine.
C'est la question assez difficile. Je pense qu'on a, On a même un plat qui s'appelle Nikujaga qui se rassemble beaucoup au pot-au-feu français, sauf on met le cochon. Puis quand même, on met des pommes de terre, on met carottes. Et l'assaisonnement, par contre, c'est assez différent que celui ici. Donc, on met un peu de sauce soja, on met mihin, qui est un petit peu saké sucré. C'est en tout cas assez basique, quelque chose qu'on en mange souvent, mais vous ne connaissez pas du tout peut-être. Voilà.
Et comme c'est Kiyuchi, moi je ne sais pas, je pense au plat du quotidien, au udon, au ramen, on connaît quand même un peu les ramen.
Oui.
Les gyoza, le dashi.
Alors je pense qu'on commence quand même à connaître, enfin un peu récemment,
oui, je provoque un peu
la cuisine populaire japonaise. Aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement transporter, justement, les plats à base des herbes aromatiques, comme a dit Taku. Donc, et aussi ça, c'est très éphémère, il faut aller sur place. Et aussi, il y a tout un pain de produits de fermentation, comme l'origine de ceci, mais fait avec les poissons fermentés pendant presque un an. Donc ça a certaines odeurs, certaines saveurs, mais ça c'est la partie de choses qu'on ne connaît pas encore ici.
Est-ce que vous êtes embêté, Taku Sekin, même si vous ne faites pas de la cuisine traditionnelle japonaise, on y viendra tout à l'heure, bien sûr, dans votre restaurant d'Ersu, mais est-ce que malgré tout vous êtes embêté par des ingrédients que vous ne trouvez pas en France ?
Physiquement, par exemple, certains ingrédients qui me manquent beaucoup, par exemple, un légume qui s'appelle myoga, c'est espèce de, je sais pas comment j'explique, mais...
Ryoko. Vous qui êtes traductrice.
Non, mais en fait, ce n'est pas une herbe, mais c'est une sorte de quoi?
Racine.
Racine, oui. Et qui est très aromatique et qui est presque le symbole de la saveur d'été. Avec ça, on sent que, mais vraiment, on est arrivé à la fraîcheur de l'été, on hume cette odeur, n'est-ce pas?
C'est merveilleux. Puis, personnellement, j'aime beaucoup, donc il me manque beaucoup. Pourtant, en étant en France, il y a tellement de choses, même. Il me manque ces choses, mais je cherche pas parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses ici aussi, voilà.
Alors ça, c'est quelque chose qui rassemble les cuisines françaises et japonaises. Ce sont deux pays, deux cultures où il y a quatre saisons. Ryoko Sekiguchi, votre livre Nagori, porte justement sur ces saisons et tout ce que cela véhicule, à la fois en termes de nourriture, de cuisine, mais aussi bien sûr de disposition, d'état d'esprit. Dans ces deux pays où on trouve les quatre saisons, au Japon, malgré tout, les mots sont associés à une saison. Et vous dites qu'il existe trois termes pour décrire l'état de saisonnalité d'un aliment, puisque vous parlez de la cuisine d'été, de la cuisine du printemps. On trouve, pardon de l'accent, hein, hashiri, sakari et nagori.
Oui, en fait, c'est vrai que il faut avouer que chaque fois qu'un chef dit « oui, alors je travaille avec les produits de saison », ça m'énerve un peu, parce que qu'est-ce que ça
vous
veut dire?
Vous dites avec un ton et des gestes très précieux, effectivement, comme si c'était un...
parce que, mais qu'est-ce que ça veut dire de saison? Est-ce que c'est quand le produit arrive pour la première fois au marché? Est-ce que c'est en pleine saison? Est-ce que c'est la fin de saison? Et je pense qu'une des particularités de la cuisine japonaise, c'est qu'on prend un produit comme un être humain. Donc, il y a l'enfance d'un produit. Le produit peut avoir 30 ans, 40 ans. Et puis, avec la sagesse, justement, on est au moment de dernière figue en ce moment. Peut-être c'est le moment où les figues prennent la sagesse et qu'on savoure cette sagesse avec un peu de nostalgie de dernière fois, donc avant de le retrouver l'année prochaine.
Comment abordez-vous ces saisons, ces produits de saison, avec préciosité, Taku Sekin, comme le dit
Ryoko Sekiguchi? Oui, effectivement, par exemple, au marché des poissons, ils parlent de saisonnalité, évidemment, mais ils parlent saison par semaine. Par exemple, le poisson, à cette semaine, il a commencé à grossir un petit peu. C'est vraiment l'histoire de Van Gram. Mais il parle vraiment, ah ok, dans ce cas, je vais commencer à arrêter d'utiliser. Même en France, en étant en face de produits français, même ça existe la même chose. Par exemple, l'asperge blanche, début de saison, un peu jeune, il n'y a pas trop de goût, mais quand même, il y a énormément de parfum. Puis plein milieu de saison, c'est sucré, c'est pur comme il faut. Mais à la fin, ça commence à être un petit peu amer, comme un adulte peut-être.
Ah bah donc vous parlez de la même façon, c'est voilà. Comme un être vivant, c'est comme un être humain.
En fait, façon partout, puis saison, ça bouge comme un humain. Je dis demain, on est peut-être un peu plus fatigué. Hier, on était en forme. Dans un an, on est un peu plus vu. Voilà.
Je vais continuer avec mes idées reçues.
On dit aussi que la cuisine japonaise est réputée pour être un idéal d'équilibre. Et que dans cet équilibre, alors on a pu lire que certaines grand-mères qui vivent dans un village près d'Okinawa, où il y a énormément de centenaires, mangent justement très équilibré une soupe et trois plats qui sont les règles de base de la composition d'un repas japonais. Est-ce que ça c'est un cliché, Ryoko Sekiguchi ?
À la fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un cliché, parce qu'il faut pas oublier que l'industrie agroalimentaire, enfin, est super développée au Japon. Mais en même temps, je pense que si on revient à l'idée de la cuisine traditionnelle japonaise, moi, je dirais que c'est un état d'esprit plus que l'utilisation ou bien la méthode de certains ingrédients. C'est comme un ami fidèle, calme, mais qui est toujours là, à côté de vous, quand vous êtes en forme, quand vous êtes malade, il vous écoute. Et c'est une, je pense, cuisine silencieuse, mais qui est très à l'écoute.
Takusekin ?
Aujourd'hui, on a tellement de bazar alimentaire.
De bazar, oui.
Voilà, je pense qu'il y a peu de gens qui mangent cette sorte d'alimentation pure au japonisant.
Ça ne veut rien dire aujourd'hui.
Donc en fait, c'est ça. Donc en réalité, ça n'existe pas vraiment. Mais après, je suis d'accord encore que c'est vrai qu'on a un petit peu de viande, on a quand même la plupart des choses qui sont basées de la mer, même si ce n'est pas forcément poisson. Par exemple, les algues, tout simplement, on fait le bouillon avec les algues séchées. Puis après, toujours, il y a énormément de légumes. Donc si on respecte ça, peut-être, voilà. Mais on est un petit peu trop loin aujourd'hui, je pense.
Vous avez parlé tout à l'heure des ingrédients, alors le tofu, le miso, le yuzu, le riz, on a parlé de certains plats du quotidien. On peut aussi parler des odeurs, des goûts, des saveurs. Vous avez travaillé dessus, Ryoko Sekiguchi, vous avez écrit un livre sur la fadeur. Vous vous réfléchissiez à la notion de fadeur en comparant les cuisines françaises et japonaises. On a même un goût dont le nom est un mot japonais, l'umami, qui est le savoureux. Le fade ici et l'umami là-bas, vous diriez quoi ?
Alors, c'est vrai que si la cuisine française est une quête permanente de l'intensité de la vie, peut-être, donc, comme je vous disais, la cuisine japonaise, c'est quelque chose qui est comme un murmure, plus silencieux, qui vous accompagne tout au long de la vie. Peut-être la cuisine française, il faut être vraiment en forme, en face de la cuisine. Ce n'est pas le cas de la cuisine japonaise, chose qui fait qu'il y a peut-être moins de goût. Et un maître de la cuisine de Kyoto m'a dit une fois qu'un bon repas, en sortant de restaurant, il ne faut pas se rappeler d'un plat principal, mais de tout ce moment en global. Et elle a l'impression juste d'avoir passé un bon moment.
Takusekin, vous construisez vos repas de cette façon-là. C'est vrai que le fade ici, c'est plutôt péjoratif, alors que j'ai lu, donc, grâce à Ryoko Sekiguchi, qu'au Japon, c'était pas pareil.
Effectivement, quand je mange de la cuisine japonaise, c'est vrai qu'au niveau du hizme, c'est assez plate. Comme elle a dit, c'est silencieux. Il n'y a pas vraiment de boissy. Voilà, mais on sent bien et en fait, il y a que le goût qui est pas tout à fait annoncé. En fait, on commence à chercher le goût qui est caché même. Donc ça, c'est peut-être un petit peu contraire même par rapport à la culture française.
Difficile hein, quand même cet exercice que je vous demande de définir la cuisine japonaise et de la définir aussi en creux par rapport à la cuisine française. On voit ça tout à l'heure. Restez avec nous pour écouter la Madeleine 2. Il est 12h15 dans les bonnes choses.
Ah oui. Ah, c'est très bon.
Ah oui.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Même le plat de votre invité du jour, votre personnalité, Natacha Triou.
Oui, cette semaine, j'ai rencontré le chanteur Philippe Catherine. Il est en train de préparer un nouvel album. Philippe Catherine, à qui l'on doit la musique de notre générique avec le morceau « Le poulet aux hormones ». Sa madeleine est un produit de la mer que l'on cuisine aussi au Japon. Je vous lis la définition. Mollusque céphalophode marin à corps cylindrique, à coquille interne rudimentaire et à tête entourée de bras munis de ventouses. Vous devinez ?
On va écouter.
Quand vous me posez cette question, je pense à mon père, parce qu'il faisait rarement la cuisine. Mais quand on prenait une location en vacances, sur la côte, il faisait des calamars grillés. Et pour moi, c'était une aberration de manger comme ça des pieuvres, comme du caoutchouc. Mais il savait faire ça d'une façon... très subtil, mélangeant citron et grillade pure. Et la pieuvre changeait de forme. Il y avait quelque chose de très spectaculaire, évidemment. Il y a les pattes aussi, les petites pattes de pieuvre. qui se tortillait à la flamme. Donc c'était à la fois quelque chose d'extraordinaire à voir et aussi à manger avec de l'ail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand je vais au restaurant, ce qui reste une de mes passions, hein, le restaurant, quand je vois une poêlée d'encornet, je prends tout de suite. Oui, tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, d'où est-ce que ça venait qu'il savait cuisiner ça, je ne sais pas trop. Parce que souvent, c'était ma mère quand même qui faisait plutôt à manger. Du poisson pané en étant dur, même si j'aimais ça. Mais... voilà, je vous parle de mon père parce qu'il est décédé, alors bon, peut-être que ça, c'est le privilège de l'homme d'une certaine époque. Quand il se met au fourneau, c'est un événement. Je ne lui ai jamais demandé mais comment ça se fait que tu cuisines ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'avais 12 ans. Hein, là, je vous parle de Sainte-Madeleine. Donc, c'était vraiment pour moi de l'exotisme pur. Mais il le préparait donc plutôt au barbecue, torse nu, souvent, en short. Ce qui ramenait évidemment de l'érotisme à cette scène, qui était d'autant plus précieuse qu'elle était rare.
Merci, papa.
Merci, papa.
Et merci, Natacha.
Merci.
Takuseki voulait cuisiner les calamars.
Évidemment.
Comment? Grillé?
Oui, entre cru et grillé. Grillé à peine, on va dire. Donc, on nettoie et puis on les taille finement. C'est quelque chose que j'aime. Après, je vais flasher un petit peu avec chalumeau. Puis comme ça, c'est moins sashimi, mais en même temps, c'est pas tout à fait cuit non plus. Voilà.
Et c'est plus très japonais, puisque si vous les flashez au chalumeau, on est plus dans la cuisine française robuste que dans la délicatesse et le silence. Et on est pur aussi de la cuisine japonaise, Takusekin. C'est votre pâte. C'est votre pâte.
En fait,
que...
je peux plus le dire. Ou c'est plutôt français, ou c'est japonais. En fait,
c'est ça, vous faites vraiment un mélange. Vous faites vraiment un mélange. C'est ce qui caractérise votre cuisine. Vous êtes passé par Alain Ducasse à Tokyo, vous êtes passé chez Hélène Darroze à Paris notamment. Des échanges fructueux entre chefs français et japonais qui font qu'aujourd'hui, vous faites vraiment un mélange à la fois de culture et aussi vous associez les mets et les cocktails. Alors par exemple, vous faites un cochon ibérique, alors là on est vraiment dans un mélange, un cochon ibérique que vous cuisez au binchotan, qui est le charbon japonais. Mm-hmm. Vous le faites encore ça?
Oui, donc cochon c'est déjà, avant de mariner, on le met au saumur, on laisse sécher pendant 2 semaines. Bien le goût s'est concentré parce que de l'eau c'est parti. Puis après on va mettre un mariné dans une saumure de un petit peu de piment et des citronnelles et galanga et des sauces poisson et des sucres et tout. Après on barotit sur charbon japonais qui est binchotan. Puis voilà. Et en ce moment-là, il y a beaucoup d'informations dans cette plat. Puis du coup, c'est carté le qui.
Beaucoup d'informations, en effet. Alors, vous donnez très envie à Ryoko Sekiguchi, qui salive déjà.
Oui, j'ai faim là.
Beaucoup d'informations. Alors ça, c'est aussi une vraie différence entre la cuisine française et la cuisine japonaise, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. C'est que la cuisine japonaise reposerait sur la soustraction. Ou l'épure, c'est plus joli que la soustraction, alors que la cuisine française, schématiquement, serait dans l'addition. Donc là, vous qui vous revendiquez Takusekin plutôt de la cuisine asiatique que japonaise, et puis d'un mélange, hein, c'est pas de la fusion, mais c'est un mélange de culture, de cuisine, vous diriez qu'effectivement, la cuisine japonaise est plus dans l'épure, et que Sekiguchi et la cuisine française plus dans l'addition?
Oui, même si, bon, ça c'est un cliché. Mais je pense toujours que les clichés ont une vérité aussi. Et c'est vrai qu'il y a un côté avec la cuisine française, comme le tableau, peinture à l'huile, alors que la cuisine japonaise, mais c'est un dessin. Mais toujours est-il que, par exemple, la cuisine japonaise du Sud est sous l'influence de la cuisine de l'Asie Sud-Est. Enfin, on est toujours aussi comme donc la cuisine de Taku dans les échanges et l'influence, et que je peux dire de sa cuisine, ce n'est pas l'échange simplement de 2 cuisines, mais de plusieurs cuisines, n'est-ce pas?
Déjà, oui. Déjà, je suis, avant d'être cuisinier, je suis un humain, donc je vis dans une ville à Paris principalement. Sinon, je voyage, même pendant vacances, je vais à l'étranger. Je rentre au Japon régulièrement, puis je mange un peu n'importe quoi. Et évidemment, j'ai bien appris dans la dans les brigades de grande gastronomie française. Mais après, aujourd'hui, ce que je cuisine, c'est juste, je m'exprime ce que je ressens dans mon cœur. Puis, cet sentiment, ça vient d'un peu n'importe où. Ça peut être bébé qui vient d'être né il y a un an.
Qui peut vous inspirer.
Pas dans mon bébé. Oui, ouais. Même ces petites choses qui n'est pas forcément alimentaire, qui m'influent en fait. Du coup, en tout cas, toutes ces influences autour de moi qui se traduisent en passant mon corps et en passant ma tête, et c'est ça en fait.
Ryokusei Kikuchi.
Ouais, peut-être plus que la différence entre la cuisine japonaise et la cuisine française vient à autre, on peut dire que la cuisine, disons, contemporaine, il y a un trait bien clair, c'est la cuisine perméable, n'est-ce pas? La cuisine accueillante, la cuisine qui aspire et qui se mélange, qui a le courage de se mélanger. Je pense
qu'au moins, ce que je peux dire, je cuisine pas pour un règle. Je cuisine pour faire plaisir aux gens. Puis pour, en fait, avant de cuisiner, je regarde un produit devant moi. J'imagine comment ça va être sublimé par moi et pour les gens. Donc, je pense pas trop, j'ai appris comme ça avec ce produit. Donc, je pense pas du tout, j'ai pas trop de notions par rapport à les produits, en fait.
Qu'est-ce que vous faites, Takusekin, des 20 kilos de yuzu, c'est-à-dire le citron nippon, que vous rapportent chaque année vos parents?
En fait, une chance qu'on a un grand arbre de yuzu dans le jardin de chez mes parents. Donc, ils apportent toujours une balise pendant cette saison. Puis, au départ, évidemment, 20 kilos de yuzu, c'est énorme, en fait. Mine de rien, mais c'est énorme quand même. Donc, au départ, je commence à utiliser un râpé la peau, je presse le jus et tout. Mais au bout d'un mois, les agrumes, ça commence à un petit peu fatiguer. Donc, à ce moment-là, je vais mettre en confiture ou même tout simplement sécher. Et sinon, je donne à quelqu'un d'autre aussi, voilà.
Ryoko Sekiguchi, il y a quand même un sujet dont on ne peut pas ne pas parler quand on parle aujourd'hui de la cuisine japonaise, c'est Fukushima. Mmh. Et ce que Fukushima a fait à la cuisine japonaise, vous avez écrit vous-même un ouvrage, L'Astringent, en hommage à un goût perdu, celui du kaki de Fukushima.
Bah, c'est vrai que Fukushima, la région de Fukushima qui était très riche à la fois de produits de la mer et de produits des montagnes, c'était un peu notre Aquitaine. Donc, du coup, maintenant, c'est rayé de la carte. Et que maintenant, bien sûr, je prends une position, le gouvernement dit que maintenant il n'y a plus de problème. Si, quand même, il y a le problème. Et je pense que, malgré tout, s'il y a une chose qui est, je ne dis pas salutaire, mais que certains Japonais prennent conscience plus que n'importe quand, sur les produits qu'on mange, sur la traçabilité, et que. Peut-être il y a des choses qu'on peut faire pour le futur.
Takusekin.
En fait, mes grands-parents, de côté de mon père, ils viennent de Fukushima. Donc, pendant l'été, quand j'étais petit, j'étais toujours à Fukushima. Donc, je me rappelle exactement. Ils faisaient tofu à Fukushima parce qu'il y avait l'eau super pure. Puis, la terre, c'est tellement riche. Donc, c'était la préfecture de fruits, par exemple. Comme pêche, comme un poire, c'était vraiment magnifique. Aujourd'hui, on en trouve moins le produit, mais personnellement, moi, je suis attaché avec cette préfecture, donc j'espère qu'un jour, ça va revenir.
Là, on retrouve le nagoré, la saudade et la nostalgie d'un temps qui n'est plus et qui est donc le titre de votre livre, Ryoko Sekiguchi. À la fin de ce livre, et on va se quitter là-dessus, puisqu'à la fin de ce livre, vous qui cuisinez aussi et qui faites des mélanges, vous rappelez le menu incroyable que vous avez fait pour le dernier dîner des pensionnaires de la Villa Médicis 2014. Et vous donnez ce menu, alors je vais citer quelques plats, si vous le permettez. La salade de fenouil au yuzu kosho, la polpette aux feuilles de citronnier, le manzo mariné au mar de saké et les asperges au katsuobushi. Je vois, Takusekin, que vous levez les yeux au ciel pour essayer de vous imaginer ce que ça pourrait représenter. Ça donne quand même envie, tout ça.
Oui, ça laisse super bon.
Merci beaucoup. Restez avec nous pour la dernière partie de ces bonnes choses. C'est la chronique, la cerise sur le gâteau. Catherine.
Catherine Roig, alors cette plus vieille recette de l'humanité, qu'est-ce donc ?
Ah ah ah, petite devinette, cette recette elle existe depuis que l'homme maîtrise le feu, soit 450 000 ans à quelques mois près bien sûr. Vous pensez peut-être au barbecue, mais non, ce n'est pas ça. En fait, dès que Madame Sapiens a trouvé le moyen de faire chauffer de l'eau dans un trou, elle a eu l'idée d'y plonger des herbes, des os, de la viande. Sans le savoir, elle venait d'inventer le bouillon, et avec lui, l'une des bases de la cuisine universelle.
Le bouillon.
Bénéfice immédiat, cela rendait les aliments plus sains et moins coriaces sous la dent. Imaginez-vous croquer dans une cuisse de lièvre crue pour mieux comprendre la problématique de nos ancêtres. Le bénéfice secondaire, c'est que tout était meilleur, donc la notion de goût était née, et ce, aux quatre coins de la planète. Ainsi, on répertorie il y a 2000 ans, au centre de la Chine, du côté de Chongqing, la fondue chinoise. En réalité, un bouillon très épicé à base d'abats. 1000 ans plus tard, en Mongolie, on fait bouillir ensemble du mouton, un peu de pâte de sésame, de pâte de haricots mango, de l'huile pimentée, de la coriandre, et on obtient l'ancêtre d'un bouillon japonais très populaire, le shabu-shabu.
Et nous y revoilà, donc comme toujours, à la cuisine japonaise, notre plat du jour.
Et pour cause, il est aujourd'hui unanimement reconnu dans le monde de la gastronomie qu'avec le bouillon dashi, les Japonais ont inventé le roi des bouillons. Tous les chefs rendent hommage à ce monument d'umami, cette fameuse cinquième saveur qui incarne le goût du Japon et qui est obtenu avec de l'eau, de l'algue kombu et de la bonite séchée. C'est tout, oui, c'est tout, mais le résultat peut être divin. D'ailleurs, si vous demandez à Alain Ducasse quel est son restaurant préféré dans le monde, il cite invariablement une gargote d'Osaka, où une dame et son fils servent un bouillon éblouissant. Mais revenons à nos moutons, parce que pendant que nos aïeux asiatiques taquinaient les algues et les épices, les cuisinières n'étaient pas en reste dans nos belles régions. Les Bretonnes enrichissaient leur bouillon de lard et de farce, une pâte à base de farine de sarrasin et de blé noir, ce qui donna le célèbre kick à farce, tandis que les Béarnaises y plongeaient un volatile dans leur bouillon, inventant la poule au pot si chère à Henri IV.
Pourquoi si chère ?
Parce qu'elle était nourrissante, une notion fondamentale à une époque où manger à sa faim était une préoccupation permanente. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, des vendeurs ambulants sillonnaient Paris en proposant du bouillon de viande et en criant « Bon bouillon qui restaure, bon bouillon qui revigore !» Et de fil en aiguille, les premiers restaurants populaires prennent le nom de bouillon.
Et aujourd'hui, alors que c'est si ancien, pourquoi on en parle tant ?
Mais parce que plus que jamais, le bouillon, pas cher, sain, léger, voire détox, est très à la mode. À Paris, le Bouillon Pigalle, un ancien vieux restaurant bon marché, a réouvert et il est plus que jamais branché. À New York, il y a même des enseignes Brodo, qui vous proposent un brouet d'eau à emporter, comme des cafés lattés si vous voulez. Et sur Instagram, les hashtags broth et bouillon cumulent 300 000 publications, rien que ça. Dans les rayons des épiceries fines, on trouve désormais du bouillon en bouteille, en infusette, en tablette. Le pot-au-feu casse la baraque dans les bons bistrots et la gastronomie bouillonne à qui mieux mieux. Et je pourrais vous citer le bouillon de lièvre avec de la Saint-Jacques crue de Christophe Pellet au Clarence, qui est tout simplement extraordinaire. Quant aux livres sur le sujet, ils se multiplient. Mais si vous voulez mon avis, la Bible du genre, elle est signée par l'immense chef William Le Deuil. Ça s'appelle Bouillon et c'est paru à la Martinière. Bref, vous l'aurez compris, mon mot d'ordre aujourd'hui, c'est prenez le bouillon, Caroline.
Merci Catherine Roig pour votre chronique. C'est la fin de cette émission. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Alexandra Condilongué et nos techniciens du jour, Anthony Thomasson et Jean-Guy Lermet. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture et dans un instant, ce sera le journal.